se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnottez 60% sur le deuxième paquet de linguine Auchan Tavola in Italia.
Eh, avec une offre pareille, ça sent déjà bon les pâtes à l'italienne.
Auchan, avec plaisir. 1,39€ cagnotte déduite, les deux paquets de 500 grammes de linguine Auchan Tavola in Italia. Prix payé en caisse, 1,98€, soit 1,98€ le kilo. Existant d'autres variétés, valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, bougez plus.
Le grand oral des grandes gueules.
Julien Bayou, bonjour.
Bonjour.
Tête de liste pour la région Île-de-France, Europe Écologie Les Verts.
Mais vous êtes et six autres partis politiques.
Bien sûr, mais vous êtes habillé comme un boomer, Julien, qu'est-ce qui se passe?
Ah oui, bah 40 ans, qu'est-ce que vous voulez.
Vous avez mis la cravate, le costume?
Passé chez le coiffeur. Ça m'arrive quand même
en basket,
temps.
Non, mais je dis ça parce qu'on vous a beaucoup reproché cette affiche qui finalement n'avait pas été validée. Où vous montriez un peu du doigt les boomers. En gros, ça s'adressait aux jeunes. Allez voter parce que sinon les boomers vont voter eux et ils votent pas écolo si je comprends bien.
Non. C'était, mais effectivement, c'était une erreur et je l'ai retiré immédiatement. Je trouve qu'on en parle beaucoup quand même pour quelque chose qui est resté en ligne peut-être 20 minutes. Mais oui, l'enjeu c'était, vous aviez jusqu'au 14 mai pour vous inscrire sur les listes électorales. Et il y a 1,5 million pour l'Île-de-France et je crois qu'on est à 9 millions pour la France au global. De non inscrit ou mal inscrit.
C'est donc vendredi à la date.
Il y avait l'idée un peu provoque de dire, bah, écoutez, en fait, cette jeunesse dont on parle, qui est aujourd'hui, qui a l'horizon doublement obscurci, en fait, hein, il y a immédiatement la difficulté à se nourrir, littéralement. On a une crise alimentaire, en particulier chez les étudiants et étudiantes. Et puis l'avenir plus large qui est obscurci par l'inaction en matière de climat. Donc, mobilisez-vous, saisissez-vous de l'enjeu. Et la région, bah, j'espère qu'on en parlera un peu. C'est une élection mal connue, c'est un échelon mal connu. Mais en fait, on peut tellement pour l'écologie, pour les emplois verts,
sur les transports notamment,
sur les transports, l'aménagement du territoire. Vous voyez, le RER B aidé, mais partout. En fait, là, je parle pour l'Île-de-France, mes camarades tête de liste entre guillemets portent évidemment le même enjeu sur les transports du quotidien. C'est bon pour le climat, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour le bien-être, c'est bon pour la santé. Enfin voilà, c'est le cercle vertueux qu'on veut engager. Avec ces élections.
Les dernières élections régionales, il y a eu 50%, enfin pas loin de 50% ouais. D'abstention. Il peut peut-être y avoir plus là encore cette année, parce que la campagne est peu existante. Il y a le Covid, les gens ont peut-être autre chose en tête que d'aller voter, Julien Bayou.
Oui, moi je suis élu sortant. Je n'oublie jamais que je suis à moitié élu. C'est-à-dire qu'il n'y a que la moitié des gens qui se sont déplacés, qu'on trouvait pertinent de se déplacer. Je pense que ça doit avant tout appeler à l'humilité. C'est-à-dire que très très loin de, vous voyez, la vision un peu classique où vous êtes élu et vous avez raison sur tout pendant 5 ans. Moi j'appelle ça la démocratie par intermittence. Évidemment vous êtes élu, vous avez une légitimité à prendre des décisions, à proposer un cadre. Mais le mieux c'est de remettre du participatif à chaque fois. La démocratie en continu.
Mais moi j'ai
les
du
budgets
mal.
Participatifs, ouais. les droits d'interpellation populaire, pourquoi pas le référendum d'initiative partagée par exemple. Vous voyez, ça c'est la manière de faire de la politique, des politiques publiques qui ont du sens et qui touchent le concret des gens.
J'essaie de suivre un peu la campagne régionale qui a démarré. J'ai du mal à faire la distinction entre les uns et les autres. Finalement tout le monde est à peu près écolo, tout le monde veut plus de transports en commun.
Ouais, c'est nouveau. Hein.
Tout le monde veut de la police, même si c'est pas forcément une compétence régionale, mais on parle tout le monde parle sécurité, alors que quand on est président de région, c'est quand même pas la première mission. Alors qu'est-ce qui
distingue la sécurité dans les transports?
Alors on peut faire la sécurité dans les transports, mais c'est quand même voilà, c'est une partie à sécurité.
Notamment, il y a un point qui est systématiquement écarté, c'est la question du harcèlement à l'égard des femmes. C'est-à-dire que on nous parle de police, de sécurité. Vous l'avez raison. Nous, on demande le renfort de police nationale, mais c'est une décision régalienne. Et fort heureusement, on ne privatise pas la sécurité. Mais on ne parle jamais de la question de la sécurité, de la sûreté, de la tranquillité des femmes dans les transports sous un angle sécurité. Or, c'en est un. Si vous avez 100% des femmes qui sont victimes de harcèlement dans les transports, vous avez un problème de sécurité. Et il y a un enjeu. Moi, j'ai été vraiment très surpris. La brigade de l'Évangile, donc qui s'occupe de cette question à la police régionale des transports.
Qui s'appelle la brigade de l'Évangile?
Oui, parce qu'elle est sur le site de l'Évangile, pardon, à Paris. Mais c'est un très joli nom pour une brigade de tranquillité dans les transports. En fait, quand elle se saisit d'un dossier, quand elle arrive à avoir une plainte de la victime, dans 70% des cas, elle obtient une sanction. C'est un chiffre vraiment très important. Moi, je m'attendais à une impunité complète. Et donc, l'enjeu, c'est que les victimes portent plainte. Ou plus exactement, qu'on puisse avoir accès aux bandes vidéo. Et moi, ce que je veux proposer, c'est évidemment d'accompagner les victimes pour qu'elles puissent porter plainte. Mais en fait, c'est souvent presque une deuxième peine. Vous êtes victime de harcèlement et en plus, vous devez avoir la charge mentale d'aller porter plainte. Eh bien, moi, je propose que la région porte plainte en lieu et place des victimes. Et ainsi, on immobilise les bandes, on permet à la police d'enquêter et à la justice de sanctionner. Vous voyez, comme ça, on fait reculer très concrètement le harcèlement, l'exhibitionnisme aussi, les frotteurs dans le métro et dans les RER.
Joël Degosséry.
Oui, j'aimerais un peu vous reprendre sur deux déclarations. Une première déclaration de Valérie Pécresse qui disait que si la gauche gagnait, enfin, en tout cas, ce serait un alliage entre gauche et islamo-gauchisme à la région. Et vous, vous avez déclaré que Macron était dangereux. Donc, je me demande qui, entre guillemets, est-ce que le FN, c'est normal pour tout le monde? Mais pour vous comme pour Valérie Pécresse, voilà, est-ce que tout est normal pour vous? Puisque Jordan Bardella, qui est quand même derrière, je crois, derrière dans les sondages, derrière Valérie Pécresse, menace quand même, pour moi, est une menace.
Une menace pour le pays.
Donc, si Macron est une menace pour vous, Valérie Pécresse, pour elle, la menace, c'est l'islamo-gauchisme, qu'est-ce qu'est le FN?
Et je vous rejoins. J'étais très surpris de cette déclaration de Valérie Pécresse, qui en gros disait le Rassemblement National n'est pas un danger. Le danger, c'est l'arrivée de notre arrivée,
oui,
les écologistes et la gauche, la transition écologique, les emplois verts. Voilà le danger. Donc, pour une personne qui se réclame du gaullisme, donner comme ça un quitus à parce que l'extrême droite a fondé par des anciens de la Waffen-SS, qu'on fait des attentats à l'encontre du général de Gaulle, qui menace littéralement notre République. Si demain ils arrivent au pouvoir, on n'est pas sûr de pouvoir le récupérer derrière. C'est ça l'enjeu du Rassemblement.
Vous dites c'est une vraie menace pour la République, le Rassemblement National.
Évidemment, moi je les combats. C'est-à-dire que je fais le distinguo entre des adversaires, des compétiteurs, des adversaires, des concurrents, des concurrentes, et puis un ennemi de la République, le Rassemblement National. D'ailleurs, vous voyez, on a beaucoup parlé de la fiche des boomers. Très bien, bon, ok. Peut-être un peu beaucoup. Mais la même semaine, vous aviez une tribune de militaires, dont certains en retraite, d'autres dans l'active, qui appelait à l'insurrection, qui appelait à la guerre civile.
On en a beaucoup parlé aussi.
Oui, bah fort heureusement, parce que ça, c'est un vrai danger. Vous voyez, on présente. Alors, il y a des polémiques tout le temps, chaque semaine, des fois deux fois par semaine, des polémiques sur les écologistes. Bon, ok, moi je réponds. Mais le danger pour la République, c'est soutenir le vélo. Vous voyez, il y a, vous avez raison.
Les
vous avez absolument raison. Le Rassemblement National
le
est un danger.
Danger pour le pays. Relativement tranquille, je trouve, par les déclarations des uns et des autres.
Pas de notre part. Pas de notre part.
Mais vous êtes beaucoup sur Macron, et ce que je peux comprendre. Hein.
Non, moi je suis sur les élections régionales.
Et la droite est beaucoup sur l'islamo-gauchisme et la gauche.
Bah, excusez-moi, Emmanuel Macron est au pouvoir, et on ne peut pas dire que son bilan soit très bon pour le pays, ni sur la liberté, ni sur l'égalité, ni sur la fraternité.
En fait,
c'est un mauvais bilan pour un président de la République. Il faut le dire.
Mais est-ce que vous ne les cherchez pas un peu? Parce qu'il y a eu quand même une succession de déclarations, de décisions. Parfois, alors, on se dit, est-ce que c'est l'amateurisme ou est-ce que ça reflète une vraie idéologie? L'histoire de Strasbourg et la mosquée turque.
L'histoire
de la mère de Poitiers qui veut que les enfants ne rêvent plus d'aviation. Alors, tout ne se vaut pas, mais il y a une accumulation
de
choses et de déclarations.
Si vous votez pour les écologistes, ne soyez pas surpris à ce qu'on réduise les subventions aux loisirs motorisés.
Oui, mais évidemment. La question, c'est est-ce que vous êtes pro? Est-ce que vous êtes prêt pour le pouvoir, en fait? C'est une vraie question.
Bah, demandez ça à Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon.
Oui.
Écoutez, là, son mandat fonctionne bien. À partir de juin, promesse tenue, l'engagement sur l'accès des 18-25 ans au RSA. Alors, ils appellent ça un revenu jeunesse garanti, mais c'est le RSA pour les moins de 25 ans. Vous voyez, enfin, c'est très concret. Le retour en régie publique de l'eau. C'était Veolia qui faisait des profits et qui gaspillait de l'argent. Demain, régie publique de l'eau, à Lyon comme à Bordeaux, et ainsi moins de gaspillage et une tarification sociale. Les premiers mètres cubes beaucoup moins chers pour les personnes les plus vulnérables. C'est ça l'écologie populaire, justice sociale, des emplois verts. Et qu'est-ce que vous voulez demander de plus? On fait ce qu'on a dit. Alors on est critiqué pour ça, mais moi je prends, hein.
Charles
Parce
Consigny.
Que, je prends un exemple, cette histoire du RSA pour les moins de 25 ans. J'ai vu ce dimanche que le candidat Laurent Saint-Martin le proposait pour la région.
Le candidat En Marche candidat pour en marche, la région Île-de-France.
Il était rapporteur du budget. Vous aviez un ensemble de syndicats étudiants et lycéens et de forges de gauche et écologistes qui disaient « Faisons enfin le RSA pour les moins de 25 ans. » C'est une discrimination qui n'est pas justifiable aujourd'hui. Alors, vous avez des personnes dans la misère qui ne peuvent pas compter sur leurs parents. Et on leur dit non, il faut attendre d'avoir 25 ans pour avoir tous les droits d'un adulte.
Comment ça
et c'était non. Ce rapporteur du budget,
il dit non sur le plan national, il dit oui sur le plan régional.
C'est pas sérieux.
Comment ça se fait que vous n'ayez pas présenté un seul candidat pour la gauche, puisqu'on voit bien que c'est vos difficultés là en Île-de-France.
Il y a Clémentine Autain, Boulevard et vous.
Voilà, ce sera votre difficulté en 2022 si ça continue comme ça. Audrey Pulvar fait de la vie générale une campagne hésitante. Clémentine Autain est une très bonne candidate, je trouve. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas ni réussi de vous mettre tous ensemble pour présenter un seul candidat contre, là, en l'occurrence, la droite, qui, elle, présente un candidat fort et qui fait l'unité derrière elle, qui est Valérie Pécresse? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ces divisions à gauche qui vous plombent?
Mais vous partez du principe que séparer, c'est diviser. C'est pas le cas. Il y a eu et Audrey Pulvar et Clémentine Autain la semaine dernière encore pour discuter. Et vous confondez, je crois, les élections. Je comprends qu'évidemment, dans la tête de beaucoup de gens, on est à un an de la présidentielle, et donc les gens se disent, s'ils partent séparés au régional, ils sont incapables de s'entendre. C'est pas vrai. Oui, mais je pense que c'est important de présenter un projet. Je ne demande pas aux socialistes d'arrêter de proposer un projet socialiste. Ils proposent un projet socialiste aux régions Île-de-France, et nous proposons un projet écologiste. Je pense que c'est ça qui peut fédérer largement.
Et au deuxième tour?
Et au deuxième tour, rassembler. Nous rassemblerons.
Sur lui qui sera arrivé premier.
Exactement. Rassemblement en bon ordre.
Pour l'instant, c'est vous, hein,
évidemment.
Dans les sondages, a priori.
Et je pense que c'est l'écologie qui peut rassembler très largement. Mais bien au-delà même de la gauche, y compris des personnes qui.
C'est plus le socialisme qui rassemble la gauche et l'écologie maintenant?
Je pense vraiment que c'est le plus fédérateur. Vous voyez, par exemple, quand on porte des idées, je suis élu depuis 10 ans, et je porte une idée toute simple, critériser. Ouais, la région est un gros soutien de l'activité économique, c'est normal. Et je dis critériser, c'est de l'argent public, c'est pas normal d'arroser aussi bien la multinationale qui fait des profits que Amazon, alors que nous voulons plutôt privilégier les libraires ou les petits commerçants plutôt que les centres commerciaux. Ben c'est pour ça qu'il faut les soutenir.
L'économie qui ne marche plus.
C'est pour ça qu'il faut les soutenir. Ben la loi Lang, excusez-moi, la loi Lang.
On pourrait penser l'inverse, il faut plutôt soutenir l'économie qui demain va faire de l'emploi.
Nous soutiendrons. Mais alors.
Parce que vous parlez d'argent public.
Je termine là-dessus et je reviens sur l'emploi.
Est-ce que mon argent doit servir à soutenir des entreprises qui vont fermer ou à soutenir des entreprises qui vont se développer et qui vont créer de l'emploi?
Alors, je prends monsieur Thomas Porcher à témoin. C'est quoi les activités intensives en emploi, puisqu'on est là-dessus? C'est les énergies renouvelables, plus intensives en emploi au mégawattheure que le charbon ou le nucléaire. C'est l'agroécologie, plus intensive en emploi. Il y a plus d'emplois par hectare que l'agriculture chimique ou conventionnelle. Sur le maraîchage, vous pouvez aller chercher un emploi tous les 5 hectares. Voilà du très concret. C'est la rénovation thermique, des emplois non délocalisables, très utiles, parce que évidemment c'est du confort et c'est bon pour la santé. Ça fait des économies et c'est bon pour le climat. C'est très, très, très intensif en emploi, évidemment. Et tout corps de métier, aussi bien le maçon que les bureaux d'études. Je pourrais développer à loisir. Ce qui est bon pour le climat, c'est bon pour l'emploi.
Thomas Porcher.
Moi, je remarque qu'une partie de la gauche, notamment la gauche plutôt socialiste, qui a eu un bilan tellement mauvais, utilise maintenant l'écologie pour un peu cacher. Enfin, c'est très difficile de s'appeler parti socialiste. Donc, on va mettre écologie socialiste ou je ne sais quoi. Et là, au moins, Julien Bayou, là, on peut pas lui reprocher d'être dans ce parti de l'écologie depuis le début. Mais j'ai une question quand même. C'est pourquoi vous avez refusé la gratuité des transports? Parce que c'est quand même une proposition plutôt écolo à la base. C'est une proposition que Audrey Pulvar a pioché. Dans des travaux d'écologistes.
Sur la gratuité, que ça soit un horizon, mais là, il y a un enjeu tout simplement de... Bah, qui paye, en fait? La gratuité n'existe pas. La solidarité, oui. On a des impôts qui financent des activités et des politiques publiques. Nous, on est pour la tarification sociale. C'est-à-dire, en gros, la gratuité pour les mineurs, il y a des trous dans la raquette. Les services civiques, par exemple, payent plein pot parce que c'est pas des salariés. Les salariés, ils ont la réduction de la moitié, en fait, la moitié qui est payée par les entreprises. Et les services civiques, non. Il y a des retraités qui n'ont pas accès aux demi-tarifs. Donc, il faut pouvoir faire cette tarification sociale.
Tout le monde a bénéficié.
Mais il y a tellement d'investissements nécessaires. Voilà. En fait, l'enjeu aujourd'hui.
C'est toujours les
quand
mêmes
vous discutez
qui
sur les, quand vous
c'est
discutez
les
sur
moyennes
les...
qui travaillent.
Oui, et quand vous dites. Et quand vous discutez sur les transports publics, l'enjeu, c'est la ponctualité. L'enjeu, c'est la fiabilité. Vous voyez, le RER B, le D. Moi, j'avais rencontré une étudiante, Laura, qui a raté son examen à cause du RER D. Ça, c'est très concret. Enfin, vous voyez, quand c'est gratuit, mais que vous n'avez pas de RER, ça ne vous change pas tellement la vie. Il y a des inégalités territoriales manifestes. Je discutais avec des employeurs qui, à mots couverts, vous disent que, à compétences égales, eh ben, ils prennent la personne qui est pas sur le RER B parce que elle arrive en retard et ça complique la vie. Donc même en termes d'attractivité pour l'activité économique, on a besoin d'investir, de rattraper le retard que Valérie Pécresse n'a pas investi clairement dans le rattrapage, dans les transports du quotidien, dans le développement des bus.
Il n'y a pas trop de monde sur l'Île-de-France, 12 millions de personnes, c'est pas devenu invivable tout simplement. Il ne faut pas mieux en fait, répartir sur le territoire. Alors, je sais que ce n'est pas une compétence régionale. Si. Il n'y a pas une autre réflexion à avoir aujourd'hui.
Oui, c'est complètement déséquilibré. Ouais, c'est pour ça que nous, on est pour le polycentrisme. Aujourd'hui, tout est concentré sur la petite couronne. Paris, c'est 1% du territoire géographique. 1% de l'Île-de-France. Donc, quand vous avez 20% de la population dessus, physiquement, vous voyez, c'est dense, quoi. Ça ne marche pas. Vous avez 68% des emplois de l'Île-de-France, les deux tiers, quoi, sur 6% du territoire. Paris, un peu la Défense, Agnières-Gennevilliers plutôt. Ça ne peut pas marcher. Vous avez des gens qui viennent de plus en plus loin parce que les emplois sont concentrés et les logements sont trop chers. Et du coup, ça fait ce qu'on appelle des transports, nous on dit des transports subis. L'aménagement du territoire, là c'est le temps long. Il y a les transports du quotidien, c'est l'immédiat. Mais l'aménagement du territoire, il y a un schéma directeur régional de l'Île-de-France. C'est un peu technique et tout, mais c'est faire en sorte qu'on puisse... habiter aussi bien dans le Vexin, à Nemours,
s'éloigner,
à Mantes,
et faire du télétravail du coup.
Bien
aussi.
Sûr, et d'accord. Avoir une offre de transport, d'emploi, de culture à 15, 20, 25, 30 minutes de chez vous. Voilà. Nous voulons développer le transport public à la demande, et c'est presque ce qu'on appelle un Uber public. Vous voyez, travailler avec les taxis conventionnés, il y a des endroits en zone moins dense où c'est très compliqué. Un Uber public, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour le climat, et c'est aussi une mobilité assumée.
On a un message pour Julien Bayou. Vous connaissez Willy Schren ?
Ah, oui.
Oui, Willy Schren.
Le lobbyiste.
C'est le patron de la Fédération des chasseurs. Vendredi, il était avec nous et il avait une question pour vous, une réflexion. Donc, on réécoute Willy Schren, président des chasseurs.
C'est quand même aujourd'hui des gens qui ont une doctrine très, très, très particulière sur l'approche, effectivement, des gens qui vivent dans les territoires. Expliquer aujourd'hui qu'on est écologiste, environ, vous l'avez vu, les boomers, donc tous les vieux, on va dire, c'est des cons, forcément, ça vote pas écolo. Quand on vire les chasseurs, on vire les fachos, bon, ça encore, on peut en discuter, on met même aussi quelques personnalités plutôt d'origine juive, ça m'inquiète. Vous prenez la campagne de Brigitte Bardot contre les chasseurs, c'est le même état d'esprit. On met de l'argent sur la table pour faire de la publicité, on l'avait jamais fait depuis l'occupation. Voilà. La tête des chasseurs était remplacée par une tête de juif, je suis désolé. Ces gens, aujourd'hui, c'est scandaleux. Voilà, traiter les vieux comme ils sont traités par les écolos, j'espère qu'ils prendront une bonne branlée aux élections, ils ne l'auront pas volé.
Willy Schren.
Vous l'avez énervé, hein ?
Ça, c'est une réflexion, c'est ça ?
Non, écoutez, c'est pour vous.
Oui, effectivement, on s'oppose aux chasseurs. Je vais vous le dire, clairement. Et par ailleurs, il y a plus de gens opposés à la chasse dans les zones rurales qu'en ville. La vérité, c'est que l'impunité dont bénéficient les chasseurs, le fait de pouvoir aller partout, tirer n'importe quoi, menacer, se balader sur les propriétés, il y a pas d'autre loisir entre guillemets.
Si vous arrivez au pouvoir en 2022,
il y a pas d'autre loisir qui génère autant de morts.
D'accord. Ben oui, donc ça veut dire que si jamais la France,
il y a des armes en circulation, on n'a pas le décompte. On n'a pas le décompte.
Attendez,
il y a plusieurs millions d'armes.
Ok, mais si jamais vous arrivez au pouvoir en 2022, vous interdisez la chasse.
Nous sommes pour la réduction drastique de la chasse.
Est-ce que vous interdisez ?
Je vous réponds. Nous sommes pour la réduction drastique de la chasse. Ça commence d'abord par les chasses les plus cruelles. Je pense à la chasse à cours. C'est cruel. D'accord. Une survivance d'un autre temps, c'est la barbarie moyenâgeuse. Le déterrage des blaireaux, il y en a quelques autres. La chasse à la glu, évidemment. Et puis, on veut... Vous voyez, quand vous promenez en forêt, on a perdu la sérénité. Quand vous entendez des coups de feu au loin... On a perdu la sérénité alors que c'est un bien commun dont on doit pouvoir bénéficier. Voilà, nous disons.
Les chasseurs en forêt,
la forêt c'est un bien commun. Oui. Et donc réduction drastique de la chasse et notamment l'instauration d'un jour sans chasse.
Merci. Simplement. Julien Bayou, patron d'Europe Écologie Les Verts, tête de liste régionale Île-de-France. Il faut rappeler qu'on vote les
20 et 27 juin.
27 juin pour les élections régionales et départementales.
Et départementales, on a un peu parlé, mais c'est important aussi.
On se retrouve demain 9h. Je vous donne le programme des GG dans un instant.